Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Philippe Robuchon.
Bonsoir, une bagarre entre bandes d'une violence inouïe. Cela s'est passé la nuit dernière à Saint-Germain-en-Laye. Bilan 7 blessés, dont un reste ce soir dans un état préoccupant. Le récit de cet affrontement dans un instant. Quel sera le bilan humain de la canicule? Il faudra sans doute plusieurs jours, plusieurs semaines avant de l'établir. Un jeune homme de 21 ans s'est encore noyé hier dans un étang en banlieue parisienne. Dans le Gard, 3 incendies sont toujours sous la surveillance des pompiers. Demain, 1er juillet, entrée en vigueur d'une série de nouvelles mesures. En Île-de-France, les véhicules les plus polluants n'auront plus le droit d'entrer dans le périmètre du Grand Paris, notamment les diesels de plus de 18 ans. Tous les détails, les explications dans ce journal et la réaction de Jordan Bardella. Arrêtons de criminaliser les automobilistes, estime le vice-président du Rassemblement National. Il était aujourd'hui l'invité du grand jury sur RTL. L'incroyable poignée de main entre Donald Trump et Kim Jong-un ce matin. Pour la première fois depuis 1953, un président américain a mis les pieds en Corée du Nord. À suivre également le sommet européen extraordinaire qui se tient en ce moment à Bruxelles pour désigner entre autres le président de la Commission. En sport, le Grand Prix d'Autriche de Formule 1, remporté par le Néerlandais Max Verstappen devant le jeune monégasque Charles Leclerc. Et puis Warren Barguil, nouveau champion de France de cyclisme sur route à la Foissière, près de Nantes. À moins d'une semaine du départ du Tour de France, à 18h20, l'invité de ce journal sera notre ami Christian Laborde pour son dernier livre sur la grande boucle, un abécédaire et bobissant. Les courses cet après-midi à Saint-Cloud. Pour gagner, il fallait jouer le 12, l'As, le 13, le 6 et le 5. Bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
On respire mieux ce soir, en tout cas à Paris. Alors d'abord, est-ce que c'est le cas partout? Et surtout, quelle est la tendance pour demain?
Alors non, c'est pas le cas partout. On respire mieux généralement sur un bon quart nord-ouest. Parce que sur le nord-est, vers l'Alsace ou encore la Bourgogne, la Franche-Comté, il a fait très très chaud aujourd'hui. 37 degrés encore cet après-midi à Dijon, à Colmar, à Toulouse, à Orange. Ça va rester chaud d'ailleurs une grande partie de la semaine dans le sud et demain y compris. Sachant que demain quand même, on va avoir un peu plus d'orage presque partout.
Merci Valérie. Prévision complète dans un gros quart d'heure.
RTL dimanche soir.
Philippe Robuchon.
Les habitants qui ont assisté à la scène parlent d'une violence hallucinante. Une bagarre a opposé deux bandes rivales la nuit dernière à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Elle s'est déroulée dans le quartier de Bel Air vers 1h du matin. Face à face, des jeunes du quartier et d'une autre bande venue de la commune voisine de Chanteloup-les-Vignes. Apparemment un règlement de compte 24 heures après un premier affrontement lors de la fête des loges. Hier soir, le pronostic vital était engagé pour 3 jeunes. Ce soir, selon le maire de Saint-Germain-en-Laye, un seul reste dans un état préoccupant. Romain Houg est retourné sur place pour RTL.
Oui, ici, les habitants sont marqués par la rixe de cette nuit. Il faut dire que la scène a été d'une rare violence pour un quartier d'habitude plutôt calme. François a assisté stupéfait aux affrontements depuis son balcon.
J'ai vu deux bandes, enfin, ils étaient à peu près 30 ou 50, je ne saurais pas dire le nom, qui s'affrontaient à coups de barres de fer. J'ai même entendu des coups de feu. Et ça, ça fait un peu flipper. Moi, ça fait 38 ans que j'habite là, mais j'ai jamais vu des choses aussi terribles que ça.
Alors, lorsque le maire de la ville, Arnaud Péricard, arrive sur place, beaucoup ici ressentent le besoin de lui raconter ce qu'ils ont vécu.
Ils étaient nombreux, nombreux, nombreux. C'est une meute. Vraiment, on a tous peur.
Arnaud Péricard tente de rassurer. Il y a eu des interpellations et des gardes à vue. Pour lui, l'heure désormais est à l'interrogation.
Aujourd'hui, je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux savoir pourquoi peut-être une cinquantaine de jeunes d'une autre commune viennent chez nous faire ce qu'ils ont fait.
Une enquête a été ouverte. Des effectifs de police supplémentaires vont être déployés dans le quartier de Bel Air et aux abords de la fête des loges dès ce soir.
Romain Houg, Saint-Germain-en-Laye pour RTL. À Villecresnes, dans le Val-de-Marne, un autre adolescent est ce soir entre la vie et la mort, là aussi après une rixe entre bandes. À Marseille, on a appris le suicide d'un policier la nuit dernière dans un appartement. C'est le 36e fonctionnaire à mettre fin à ses jours depuis janvier dernier. C'est déjà plus que durant toute l'année 2018. Et puis à Brest, l'imam blessé par balle jeudi devant sa mosquée va mieux. Il appelle au calme ce soir dans une vidéo filmée sur son lit d'hôpital. Je vous rappelle que son agresseur s'est suicidé. Quel sera le bilan humain de la canicule? On ne le saura sans doute pas avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Les autorités sanitaires vont devoir compiler un grand nombre de données. Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Vous avez enquêté. La première info qu'on peut confirmer ce soir, c'est une augmentation du nombre d'hospitalisations dues à la chaleur.
Oui, un bilan vient d'être fait au ministère de la Santé. Depuis deux jours, il y a plus de passages aux urgences pour des déshydratations ou des coups de chaleur, mais ça ne représente qu'un 5% des admissions totales. Dans les hôpitaux de Paris, la hausse était hier de 4% par rapport à la même semaine l'an dernier. Le ministère signale en région Rhône-Alpes une hausse assez forte des appels au SAMU, mais il n'y a pas d'afflux massif donc dans les hôpitaux, ni d'excès de mortalité pour l'instant. Cela dit, pour attribuer un décès à la chaleur et faire un bilan, il faut un peu de temps. Il sera connu fin juillet. Alors en 2017, il y avait déjà eu une canicule en juin. Elle avait duré une semaine aussi. Elle avait entraîné 345 décès. La direction générale de la santé qui met en garde contre les noyades, Philippe, il y a eu une forte hausse ces derniers jours, dont 8 pour la seule journée d'hier. Elle appelle à surveiller les enfants et à ne pas plonger tout d'un coup en plein soleil. C'est du bon sens, mais il y a encore trop d'accidents.
Virginie Garin, merci. Dans ce contexte de fin de canicule, plusieurs villes ont décidé de lever les mesures de circulation différenciées demain. Ce sera le cas à Strasbourg et à Paris. Le problème, en tout cas en Ile-de-France, c'est que demain va entrer en vigueur une autre interdiction. Et celle-là, elle risque d'être encore plus pénalisante pour des milliers d'automobilistes. 1er juillet, demain donc, entrée en vigueur de l'interdiction totale de circuler pour les vieux moteurs diesel et les encore plus vieux moteurs à essence. Bonsoir Charlotte Baris.
Bonsoir.
Alors soyons précis, qui est concerné ?
Eh bien tous ceux qui ont une vignière critère 4. Dans le détail, ce sont toutes les voitures diesel d'avant 2006, mais aussi les essences d'avant 1997. Sont aussi concernés les motos et les scooters d'avant juillet 2004 et les poids lourds diesel d'avant octobre 2009. Le périmètre d'interdiction, c'est Paris intramuros. Vous pourrez donc quand même circuler sur le périphérique et dans les bois de Boulogne et de Vincennes avec votre vignette 4. Ce sera valable en semaine, entre 8h et 20h et surtout ce sera tout le temps, pas uniquement pendant les périodes de pollution. Mais avec votre vignette 4, Paris sera toujours accessible le soir et la nuit, les week-ends et les jours fériés.
Alors demain, Charlotte, les automobilistes en infraction seront simplement avertis ou ils risquent déjà un PV ?
Eh bien, les agents de la ville de Paris et de la préfecture de police pourront déjà vous verbaliser, par exemple pendant un simple contrôle. Si vous ne respectez pas l'interdiction de circulation ou que vous n'avez pas de vignette, vous risquez une amende de 68 €. Une sanction qui peut même monter jusqu'à 135 € pour les poids lourds.
Dès demain matin. Merci Charlotte Baris. Cette chasse aux voitures les plus polluantes, Jordan Bardella, le vice-président du Rassemblement National, l'a évoqué lors du grand jury RTL Le Figaro LCI. Il estime que les autorités vont trop loin et surtout ne corrige pas certains défauts actuels, notamment la faiblesse des transports en commun.
Sur cette question, est-ce qu'il y a un dérèglement climatique ? Sortir un petit peu du catastrophisme et de l'hystérie. Si vous voulez, moi j'ai un peu le sentiment qu'on cherche sur la question écologique à culpabiliser de manière permanente les Européens et les Français, alors que nous avons peut-être l'économie la plus
mais
propre
vous pensez à quoi
au monde.
Qu'est-ce qui est punitif aujourd'hui ?
Toutes les mesures qui sont prises en matière écologique, qui consistent à aller taxer de manière permanente les gens qui prennent leur voiture. Et moi je veux bien qu'on interdise aux Parisiens et aux Franciliens de prendre leur voiture. Mais à ce moment-là, qu'on fasse des efforts pour rénover les transports en commun. Quand vous prenez la ligne 13 à 18h et que la ligne 13 est bondée, qui fait parfois près de 38 degrés dans les transports, comme c'était le cas cette semaine en Ile-de-France, eh bien nos compatriotes n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture.
Je dis juste,
arrêtons de vouloir criminaliser les Français qui, aujourd'hui, vivent dans un pays qui est peut-être l'un des plus vertueux au monde.
Jordan Bardella au grand jury sur RTL. On le réécoutera longuement tout à l'heure dans le MacPol. À propos de l'histoire du burkini à la piscine de Grenoble, Jordan Bardella a estimé, je cite, que le burkini était le cheval de Troie de l'islamisme, un sujet sur lequel reviendra Olivier Mazerolles tout à l'heure dans son édito. À noter que le collectif de femmes qui avait prévu de braver à nouveau l'interdiction de se baigner en burkini cet après-midi à Grenoble a finalement renoncé. Christophe Castaner demande un rapport au préfet de police de Paris à propos de la dispersion d'une manifestation écologiste vendredi dans la capitale. Des images de militants pacifistes aspergés de gaz lacrymo circulent depuis deux jours sur les réseaux sociaux. Il est 18h09 sur RTL. Dans un instant, la suite du journal. Donald Trump est entré en Corée du Nord ce matin. Une première pour un président américain depuis 66 ans.
Philippe Robuchon.
RTL dimanche soir.
RTL dimanche soir.
Philippe Robuchon.
Donald Trump a réussi ce matin à faire ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait jamais fait. Pour la première fois depuis la fin de la guerre de Corée en 1953, il est entré dans la partie nord du pays ce matin. Une rencontre très médiatisée avec le dictateur Kim Jong-un. Les deux hommes se sont longuement serré la main à la frontière et le président des États-Unis a prononcé ces quelques mots.
C'est un honneur pour moi. Franchir cette ligne était un grand honneur. Nous avons fait beaucoup de progrès. Beaucoup de choses positives se produisent en ce moment. Nous nous sommes tout de suite appréciés dès notre première rencontre. Et donc je veux vous remercier. Je vous ai prévenu au dernier moment, alors merci encore. Et maintenant, je vais vous inviter à la Maison Blanche.
Voilà, invitation de Kim Jong-un à la Maison Blanche, de la diplomatie, spectacle, diront certains. Au-delà de ces images, y aura-t-il des changements durables entre Pyongyang et Washington ? Louis Palagiano, vous êtes en Corée du Sud, à Séoul pour RTL.
L'image de Trump et de Kim Jong-un franchissant ensemble la frontière qui sépare les deux Corées ouvre incontestablement un nouveau chapitre dans l'histoire mouvementée des relations entre Washington et Pyongyang. Kim a souligné que le franchissement de la ligne de démarcation militaire par Trump démontre une volonté courageuse de mettre fin à un passé regrettable. À l'issue de son bref entretien avec le leader du Nord, Trump a quant à lui annoncé la reprise imminente des pourparlers nucléaires gelés depuis des mois. Bien que ce nouveau face-à-face hautement symbolique n'est pas abouti à la signature d'un accord. Au-delà d'une séance photo et de l'évocation d'une visite de Kim à la Maison Blanche, il a offert aux deux parties l'occasion de réaffirmer leur engagement vers un accord de dénucléarisation d'abord, et pourquoi pas vers la signature d'un traité de paix entre les deux Corées, toujours techniquement en guerre depuis 1953.
Louis Paligiano en Corée du Sud pour RTL. En Italie, la capitaine du navire Sea-Watch Carola Rackete est toujours en garde à vue après avoir forcé l'entrée du port de Lampedusa pour débarquer des migrants. À noter qu'une cagnotte mise en place par des médias allemands a déjà permis de récolter plus de 400 000 euros pour venir en aide à la jeune femme. À Bruxelles, un sommet européen extraordinaire a débuté cet après-midi. Les dirigeants des 28 doivent absolument s'entendre sur les postes les plus importants de l'Union, à commencer par celui du président de la Commission qui va succéder à Jean-Claude Juncker. Dominique Tenza, vous êtes à Bruxelles pour RTL. En fait, c'est un vrai marchandage entre chefs d'État et de gouvernement.
Oui, alors concrètement, quatre postes à pourvoir, hein, trois présidences, celle de la Commission européenne, celle du Conseil européen et celle de la Banque centrale, et puis un autre poste, celui de représentant pour les affaires étrangères. Il s'agit des plus hautes fonctions de l'Union, ce qu'on appelle les top jobs, et qui sont généralement le fruit de longues négociations entre Français, Allemands, conservateurs et libéraux. Bref, il faut ménager les sensibilités politiques, il faut un équilibre géographique, une parité, et puis c'est toujours mieux des candidats compétents. Selon les dernières informations, les 28 seraient proches d'un accord. Emmanuel Macron s'est d'ailleurs montré plutôt confiant à son arrivée.
Je tiens donc à ce que nous puissions sortir de ce conseil avec les réponses et cette nouvelle équipe. Après, pour moi, c'est le critère de la compétence et de la cohérence par rapport au projet qui a toujours été le guide. Et donc, il faudra être éclairé sur ces postes et les conditions sont pour moi claires. Dans les quatre postes qui dépendent du Conseil, il faudra qu'il y ait deux hommes et deux femmes. Et je souhaite que nous puissions trouver un accord ce soir.
Plutôt optimiste, le président français, ce qui n'a pas empêché les organisateurs d'inscrire au programme officiel, au cas où, un petit déjeuner, signe sans doute d'une nuit de tractation qui s'annonce longue, très longue.
Bon courage, Dominique Tenza, à Bruxelles pour RTL.
Philippe Robuchon, RTL dimanche soir.
Les sports, le cyclisme, le coureur Warren Barguil est en bleu, blanc, rouge ce soir. C'est lui qui a remporté le titre de champion de France à la Foissière près de Nantes. Bonsoir Nicolas Georgerot.
Bonsoir.
Vous avez suivi la course pour RTL. C'est un beau retour pour Barguil.
Oui, c'est une résurrection pour le Breton de 27 ans qui a enchanté la France en juillet 2017. Deux victoires d'étape et le maillot à poids de meilleur grimpeur sur le Tour de France. Mais depuis, plus rien. Il n'avait jamais gagné avec sa nouvelle équipe Arkea Samsic. Deux années galères en partie effacées par ce sprint rageur pour lui, le grimpeur, au terme des 252 km.
Je voyais qu'il fallait attendre vraiment le dernier moment. Et j'ai attendu le dernier moment. C'était un sprint un peu à l'arraché. Bon, c'est juste incroyable. Il ne suffit pas de gagner 50 courses dans l'année. Il y a une ou deux belles courses à gagner. Et ouais, c'est mon cas, je ne gagne pas souvent. C'est dur aussi pour moi, les critiques et toutes ces choses-là. Mais quand je gagne, normalement, je gagne des très belles courses.
Les larmes sur le podium. Il y a 10 ans, tout juste, il remportait le titre national chez les juniors. C'est une nouvelle aventure qui s'ouvre. 3 semaines avec le maillot bleu, blanc, rouge sur les routes de la Grande Boucle à partir de samedi prochain à Bruxelles.
Merci Nicolas Georgerot. À noter que Thomas Vauclair remplace Cyril Guimard au poste de sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme. En Formule 1, c'est le Néerlandais Max Verstappen sur sa Honda Red Bull qui a remporté cet après-midi le Grand Prix d'Autriche devant le jeune monégasque Charles Leclerc et sa Ferrari. Le Français Pierre Gasly termine 7e, Romain Grosjean 16e, Lewis Hamilton toujours en tête au classement des pilotes. En moto, le jeune Français Fabio Quartararo monte sur le podium du Grand Prix des Pays-Bas. Il termine 3e, victoire de l'Espagnol Vinales. Puis un mot de tennis pour vous rappeler que le tournoi de Wimbledon commence demain avec l'entrée en lice du numéro 1 mondial Novak Djokovic qui va affronter l'Allemand Cole Schreiber. 18h16, rebonsoir Valérie Quintin.
Rebonsoir.
Demain, le temps sera moins chaud, mais pas forcément plus agréable.
Non, parce que ça va être beaucoup plus orageux, donc pesant, assez désagréable pour le coup. Alors, les températures seront moins élevées, c'est vrai, sur une grosse partie du pays, mais pas dans le sud et pas dans l'est. Il fera encore demain matin 26 degrés au réveil à Menton, 23 sur Ajaccio, 22 à Lons-le-Saunier, 21 degrés à Mâcon, avec donc des orages un petit peu partout, excepté près de la Méditerranée et dans la vallée du Rhône. Et puis dans l'après-midi, ça s'arrangera aussi entre le nord et la Bretagne. Les températures dans l'après-midi baissent donc presque partout, sauf dans le sud, 22 degrés à Caen, 25 à Lille et à Nantes, 26 à Paris, 27 degrés sur Bordeaux, 30 à Toulouse, encore 31 sur Colmar, 32 degrés à Marseille, 34 à Grenoble, 36 degrés à Lyon et à Nîmes et 37 degrés sur Avignon.
Et cette tendance orageuse dont vous nous parlez, bien, elle va coller au basque, hein, si j'ose dire, de la moitié sud.
Exactement.
Toute la semaine.
Pratiquement, oui. Jusqu'à vendredi, il va y avoir pas mal d'orages. Alors, surtout près des reliefs, des Alpes, du Massif central et des Pyrénées, mais à chaque fois, ça va déborder un petit peu. Sur la moitié nord, ce sera quand même une semaine plutôt agréable, d'autant que les températures vont baisser. On va avoir une moyenne de 14-15 degrés le matin, en général, sur la moitié nord. 25 à 28 l'après-midi, donc tout va bien. Pour la moitié sud, ça reste problématique. Si les températures vont baisser en tout début de semaine, là, dans la nuit prochaine et puis dans la nuit de lundi à mardi, ça va repartir à la hausse ensuite pour le sud-ouest. Dans le sud-est, ça reste vraiment très très chaud, notamment dans les Bouches-du-Rhône, dans le Vaucluse et dans le Var. Et puis ça redeviendra très chaud aussi en midi toulousain jusqu'à la fin de la semaine.
On a noté, merci Valérie Quintin. 18h18 sur RTL. Dans un instant, l'invité de RTL dimanche soir, notre ami Christian Laborde, qui vient d'écrire un formidable abécédaire sur le Tour de France. Le Tour part samedi prochain, je vous le rappelle.